L'expérience. C'est un terme qui a plusieurs significations. Comme souvent en ce qui concerne les phénomènes du langage, et notamment du langage philosophique, ces significations ne sont pas étrangères les unes aux autres. Elles se sont greffées les unes sur les autres. Mais dans le cas de l'expérience, nous constatons un trait supplémentaire. Tout en se greffant les unes sur les autres, elles en sont venues à être presque contradictoires. Nous allons en explorer quelques-unes. Le premier sens de l'expérience, c'est l'expérience usuelle, ce qui se donne à nous dans le monde quotidien, le monde de la nature ou le monde des hommes. Nous voyons le soleil se lever et se coucher, nous voyons les passions humaines, nous constatons que les hommes sont inconstants, jaloux, colériques, et nous voyons aussi ce que les hommes construisent. Les maisons, les sociétés, les œuvres d'art, tout cela fait partie de notre expérience. C'est un terme qui est plus général que des mots comme sensation ou perception, parce qu'il implique l'ensemble du monde qui est perçu, et dans une certaine mesure, il implique que cet ensemble est cohérent. Cela suppose aussi que ce monde n'est pas simplement un univers, c'est-à-dire une nature avec des lois qui la régissent, mais qu'il est un univers perçu, avec tout ce que cela implique de déformation, de traduction, de partialité, et même, le plus souvent, d'inversion du système causal. Notre expérience nous donne en effet souvent à voir les effets plutôt que les causes. En ce sens, si on garde la notion de monde pour désigner ce que nous percevons et d'univers pour désigner la nature en tant qu'elle a des lois, bien l'ordre du monde n'est pas l'ordre de l'univers, même s'il est conditionné par lui, mais pas seulement par lui. Alors, deux questions se posent au sujet de l'expérience prise en ce sens. La première question, c'est dans quelle mesure cette expérience est-elle influencée non seulement par l'univers qu'elle traduit, mais aussi par les formes propres de notre esprit ou par les caractéristiques de notre corps. Autrement dit, le monde de l'expérience est-il conditionné par les formes nécessaires que lui impose notre esprit et notre corps? Donc, dans quelle mesure est-elle trompeuse? Dans quelle mesure peut-on y faire confiance? Et comment peut-on rectifier les erreurs ou les déformations qu'elle transporte? La seconde question, c'est de savoir dans quelle mesure cette expérience humaine est commune à tous les hommes, c'est-à-dire quel est son degré d'universalité. En effet, si ce n'est pas un trait particulier de tel ou tel individu qui la transforme, à ce moment-là, dans la mesure où il y a quelque chose de commun à tous les corps humains ou à tous les esprits humains, même si elle comporte des formations, ces déformations seront caractéristiques de la constitution humaine. Un deuxième sens du terme expérience, nous le trouverons quand nous ajouterons au premier la considération du temps. Quand on dit par exemple avoir de l'expérience, ou qu'on parle d'un homme d'expérience, on laisse entendre que l'expérience s'est accumulée en lui, qu'elle a laissé dans son esprit des habitudes pour analyser ce qui lui arrive ou ce qui arrive aux autres, et des règles de comportement. En ce sens, l'expérience est le réservoir de ce que la mémoire a disposé en nous depuis longtemps pour réagir face à ce monde qui est en face de nous et sur lequel nous agissons. L'expérience, c'est donc ce qui est porteur de l'histoire, notre histoire et aussi l'histoire des autres, puisque notre expérience, c'est aussi ce que nous avons vu ou ce que les autres nous ont transmis. Alors ici, se posera la question de son rapport avec la raison. Est-ce que l'une et l'autre, puisqu'elles toutes les deux nous font saisir ce qui est donné et nous fournissent des règles des conduites, est-ce que l'une et l'autre nous enseignent la même chose? Est-ce qu'elles se complètent? Est-ce qu'elles se contredisent? Alors, il y a une très vieille tradition, depuis au moins la morale des philosophes latins, pour comparer l'enseignement de la raison, l'enseignement de l'expérience. Par exemple, quelqu'un comme Spinoza insiste toujours sur le fait que l'expérience et la raison, finalement, enseignent la même chose et que ce qui est contredit par l'une est contredit par l'autre. Un troisième sens, maintenant, du terme expérience, c'est l'expérience scientifique. Celle pour laquelle nous avons en français un terme plus spécial, l'expérimentation. Là aussi, il s'agit d'explorer le monde qui nous entoure, mais cette fois, l'expérience est active et non pas passive. Elle est construite et non pas donnée. C'est même probablement ce qui est le plus difficile à comprendre lorsqu'on confond la pratique scientifique et l'observation. Ce n'est pas en regardant tomber une pomme qu'on invente les lois de la gravitation. L'expérimentation n'est pas simplement une expérience construite, elle est une expérience instruite. Elle passe en effet par des instruments, et ces instruments ne sont pas trouvés par hasard, ils ont été construits en fonction de théories scientifiques préexistantes. Dans l'instrument qui sert à l'expérimentation, toute une série de théories scientifiques sont matérialisées. Il y a donc une mathématisation du réel qui est déjà présente quand l'expérimentation commence. Cependant, il faut peut-être nuancer une telle affirmation. En effet, certains instruments ont parfois été produits historiquement pour d'autres causes que la recherche scientifique, même si elle se les appropriait ensuite. Les nécessités de la navigation, par exemple. En ce sens, l'expérimentation porte avec elle une histoire qui n'est pas seulement l'histoire de la mathématisation du réel, elle est l'histoire des rapports entre la pratique scientifique et les autres pratiques. En quoi est-ce que cela contredit la première forme de l'expérience? Je viens de le dire, elle est instruite et construite et non pas donnée. Mais c'est vrai qu'elle hérite de certains de ses aspects. Par exemple, aussi de son universalité, même si c'est un autre type d'universalité, cette fois un type d'universalité qui se rapproche de celui de la raison. Enfin, un quatrième sens du terme pourrait désigner l'expérience des situations spécifiques, celle dans laquelle un individu vit ou croit vivre quelque chose qui n'appartient qu'à lui et qui le happe à partir de son propre corps ou de sa propre personnalité. La maladie, la folie, l'alcool, la drogue, la religion. Ceux qui vivent de telles expériences ont l'impression de leur caractère irréductible, voire indicible. Mais ce qui est proprement indicible n'existe pas. C'est simplement une façon de dire qu'on ne sait pas rendre compte de ce qui arrive. Et si on ne le sait pas, c'est tout simplement parce que ce qui arrive à la fois produit un événement dans notre corps et produit une illusion qui cache les conditions de production de l'événement. C'est bien là une caractéristique de l'imagination et non pas de l'entendement ou de la raison. C'est pourquoi ce type d'expérience spécifique donne lieu à la fois à des productions imaginaires, parfois intéressantes, et à une incompréhension de leurs conditions d'apparition. On peut donc avoir à la fois l'impression, dans de telles expériences, d'un beaucoup plus vaste champ donné à l'individu, et à côté de cette impression, en réalité, un pouvoir diminué de la raison.